prophète vieux, mon poste ne marche guère.
Nous sommes d'accord pour des radios libres.
Nous sommes d'accord pour des radios libres.
J'emmerde la radio.
Rien de bon sur la FM.
Je trouve ça cool parce que leur but c'est pas de se tirer du fric en
c'est
fait.
C'est pas la même façon de traiter l'information que ici à la radio. On va suivre le mouvement jusqu'au bout.
Here I sit in the prison of my mind, tormented by my radio.
C'est la radio, oui, parce que c'est là où on s'échange des choses. T'as entendu ça et puis on écoute enfin, ouais, c'est bon, on partage. Et...
Trente ans après la libération de la FM, que reste-t-il de l'esprit des radios libres ?
On a rencontré celles et ceux qui animent des émissions sur les radios associatives de la région.
Portrait de radioteur.
Portrait de radioteuse.
Système de guidage.
Branché.
Pilote automatique.
Présent.
Indicateur de matière obscure.
Il fait un bruit.
Tous les systèmes opérationnels. C'est parti.
Ça va, vous secouez un petit peu.
Voilà le travail.
Voilà ce qu'il fallait dire à ce bon peuple.
C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu.
Et voilà le travail.
Aujourd'hui, on s'intéresse à une émission qui secoue les ondes de Radio Campus Lille chaque vendredi soir à 21h. Il s'agit de Voilà le travail. On a rencontré son animateur principal.
Ben, je m'appelle Seb, j'ai 39 ans et j'anime des émissions toutes les semaines à Radio Campus. Une émission qui s'appelle Voilà le travail et qui parle du travail, comme son nom l'indique, le vendredi de 21h à 22h.
Comment tu as croisé le chemin de la radio et des radios associatives ?
Alors c'était il y a 20 ans, j'ai eu le malheur de débuter mes études, ratées par la suite d'ailleurs, sur le campus de la faculté catholique de Lille. Et j'avais un copain un peu punk comme ça qui faisait des émissions à Radio Cité Vauban, RCV, que ici à campus on appelle Radio Curé Voleur. Et d'ailleurs je tiens tout de suite à dire que c'est une connerie puisque j'ai pu dire tous mes trucs gauchistes autant que je voulais là-bas. J'ai eu aucun souci. Donc voleur sans doute. Mais curé, ça sûrement pas. Et son émission était assez merdique, mais ça m'a quand même donné envie d'en faire moi-même. Donc j'ai rassemblé quelques potes qui étaient même sur ce campus-là à l'époque et qui s'emmerdaient ferme, il faut bien le dire, pour proposer une émission à l'époque qui s'appelait La Mutation du Bombix et qui avait une simple ambition, c'était de montrer ce qu'il y avait d'extraordinaire dans l'ordinaire, tel un Bombix, c'est-à-dire un verre ignoble qui se transforme en un magnifique papillon. Bref, cuculapraline, un thème pourri parce que beaucoup trop vaste, on savait pas quoi y mettre. C'était pas terrible comme radio, mais enfin, on avait fait nos débuts. Et puis, il faut dire que la radio, ça me plaisait parce que quand j'étais petit, on écoutait la radio à la maison le matin. Et on n'avait pas la télé hein, à la maison. C'est quand même important, quoi. Hein. La radio, c'est pas la télé. Mais mes parents, quand j'étais petit, ne voulaient pas que j'ai un lecteur cassette, hein, à l'époque c'était des cassettes audio bien sûr, dans ma chambre, mais j'avais quand même réussi à dégoder une petite radio, et donc j'écoutais la radio en cachette dans mon lit, et j'écoutais Radio France Alsace à l'époque, parce que je viens de l'Est, et une émission en particulier dont je me souviens plus du titre, mais où l'animateur en fait s'inventait comme le meilleur copain de plein de gens célèbres, comme Johnny Hallyday par exemple, et puis il s'inventait des histoires, des aventures incroyables qu'il avait vécues avec Johnny, puis avec d'autres personnes comme ça. Je trouvais ça génial. Je déteste Johnny Hallyday, je sais qu'il ne faut pas dire du mal de Johnny Hallyday dans le Nord, hein, comme dit Loïc, mais quand même, je trouvais ça génial, quoi. Et d'ailleurs, de nombreuses années après, j'ai essayé d'imiter un peu ce concept-là. Ah, désolé, il y a le téléphone de campus qui sonne.
Passe de cette émission pour le moins originale à peut-être autre chose, d'autres émissions.
Alors à RCV, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais RCV à l'époque, c'est-à-dire là, il y a 20 ans, hein, c'était RCV la radio rock. Et nous, enfin moi en particulier, j'aimais la chanson. Ça venait d'une petite culture familiale, Brel, Brassens, Ferré, tout ça. Et donc, on s'était dit, bah, tiens, ça serait intéressant de passer dans cette radio de la, ce qu'on appelle aujourd'hui de la chanson française, enfin, de la chanson à texte, quoi. Et c'était super parce que tous les CD de chansons qui arrivaient à la radio, hein, faut savoir que dans les radios, il y a plein de CD qui arrivent tout le temps, bah, ils étaient pour nous, ce qui était super pratique. Et donc, on faisait, au bout d'un moment, on a fait une émission qui s'appelait Gel Douche. C'était avec, à l'époque avec Loïc, qui est devenu Loïc Lantoine, le chanteur bien connu. Et aussi avec Juliette Capla, qui est devenue aussi chanteuse et qui ont d'ailleurs. Enfin, ces émissions de radio les ont un peu cultivées en matière de chansons. Et on d'autres trucs aussi, bien sûr, mais ont participé à fabriquer un goût pour eux de la chanson. Puis pour moi aussi, quoi. Donc, c'était pendant très longtemps, j'ai fait de la chanson. De la chanson à texte à Radio Campus, à RCV, donc, pardon. Donc après, ça s'appelait Gel Douche, l'émission qui vous fait sortir de la crise, dont le concept était simple. On faisait la promotion de la chanson pour sortir de la crise parce que le message foireux, c'était de dire « Achetez plein de chansons, ça relancera l'industrie française, ça créera des emplois et du coup, on sortira tous de la crise dans la joie et la bonne humeur. » Génial, non? Et donc, on s'est un peu spécialisé, comme on dit, bon, j'aime pas trop ce terme, j'en trouve pas d'autres, dans la chanson à texte. Et puis après, c'est vrai qu'on a commencé à connaître un peu les mecs de campus, leurs idées politiques et leur goût très affirmé, leur culture pour la chanson. Et donc, bah, on a glissé tout doucement vers Radio Campus. Bah, à une époque, on faisait même des émissions à RCV et à Campus en même temps, d'ailleurs. Hein. Et puis après, bon, voilà, on a lâché RCV, puis on s'est vraiment installé, disons, à Radio Campus sur la base de chansons. Puis, par la suite, j'ai fait différentes émissions. Moi, j'ai fait des études de sciences économie. Je pensais que c'était intéressant d'avoir une approche un peu explicative sur l'économie, de vulgarisation, ce qui se faisait pas trop, à part le club de l'économie sur TF1. Enfin bon, c'est quand même moyen, quoi. C'est un peu des ennemis, hein, pour nous. Et donc, je me suis diversifié, puis j'ai fait aussi du cinéma. J'ai fait un peu de tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout la radio, finalement, quoi. Tester plein de trucs. Mais progressivement quand même, je me suis formé politiquement, syndicalement, puis je me suis rendu compte que un média, c'est pas juste une radio, c'est quand même limité quand on se contente de passer des chansons qu'on aime bien. Ça, c'est ce qu'on appelle du pousse-titre, qu'il faut peut-être aller un peu plus loin, et que finalement, au fur et à mesure des années, hein, donc tout ça sur 20 ans, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, pour moi en tout cas, un média, ça doit être dans une démocratie quelque chose qui rend la parole aux gens, aux vrais gens. Et du coup, c'est pourquoi aujourd'hui, avec Voilà le Travail, on fait une émission politique basée sur une des activités principales des vrais gens, le travail, pour ceux qui en veulent bien ou qui ont la chance d'en avoir. Et donc cet angle d'attaque, hein, disons, je dis d'attaque parce que je considère, moi, qu'on est dans une lutte de classe dans ce pays réel, qu'on perd d'ailleurs, nous, les prolos. Mais c'est quand même la lutte. Et donc, il me semblait vraiment important de laisser tomber maintenant la diffusion de chansons juste parce qu'elles sont jolies, mais de s'intéresser à des questions politiques en partant de ce qu'en pensent les gens, notamment dans des manifestations, notamment dans des luttes d'entreprise. Voilà.
C'est la rue qui essuie la morve de tes gamins, qui s'efforce de lui apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est la rue qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin de ta vieille maman qui change ses pansements. C'est la rue qui conduit le train qui t'emmène en vacances, le bus et le métro que tu ne dois pas prendre souvent. C'est la rue qui te fait le planton des heures devant le restaurant où tu déjeunes de quelques bons plats préparés par la rue. C'est la rue qui achemine ton courrier, qui répare ou installe ses câbles et ses tuyaux qui font que tu peux prendre un bon bain chaud. La rue qui se lève tôt pour que tu aies du bon pain frais, un café et un journal. La rue qui ramasse tes poubelles, nettoie tes bureaux, fabrique ta prochaine voiture de fonction, installe ton matelas et ton parasol, répond au téléphone, approvisionne les rayons, tape tes discours, taille la haie, photocopie, balaye, ausculte, assemble, épluche, emballe, graisse, fax, repasse, arrose. Et des fois, c'est la rue qui vote. Avec une grande humanité et avec une grande fermeté, je suis dans la rue, j'y suis bien et je t'emmerde.
En avant la classe ouvrière, la classe ouvrière, en avant.
Il y a toujours un petit reportage Donc ça ne veut pas dire que je fais du reportage toutes les semaines, j'en ai pas les moyens en temps, hein. Mais je vais prendre du son, puis après je déroule un peu sur quelques semaines. Donc il y aura toujours un bout de reportage, il y aura toujours une interview par téléphone, parce que le vendredi soir à 21h, pas facile pour les invités de se déplacer jusqu'à l'arrière du bâtiment M1 de la Cité Scientifique. J'aime aussi travailler le son, donc en fait, grâce à Internet, maintenant, on a énormément de sons, donc je pique du son du travail que je capte sur Internet, puis je fabrique des petits modules sonores, comme ça, que j'appelle des zappings du travail, qui durent de 1 à 3 minutes, et dans l'émission, on retrouve aussi...
Zapping du travail, son du travail de quoi, d'usine
Par exemple, sur Internet, on trouve de tout. L'autre jour, je suis tombé sur un mec, par exemple, qui son boulot, c'est être conducteur d'une excavatrice, donc une espèce de gros engin de chantier comme ça qui pète tout sur son passage. Et le type adore sa machine comme ça. Alors, il s'est enregistré en train de tout péter avec son truc, et puis il est tout fier et tout. C'est intéressant comme ça, c'est du son de travail. C'est quelqu'un qui, je parlais de la lutte, mais enfin, dans le travail, il y a aussi de l'émancipation, il n'y a pas que de l'aliénation. Hein. Donc ça, c'est du son. Et puis, quand on entend le conquistador en train de cracher sur les grévistes et en train de dire « oui, mais dans ce pays, il y en a aussi qui ne peuvent pas faire la grève parce qu'eux, ils ont du boulot », ça, c'est aussi du son de travail. C'est le son de l'ennemi, mais c'est du son de travail. Ça m'intéresse. Puis il y a d'autres trucs, il y a la pornographie de TF1, il y a plein de sons intéressants qui parlent du travail, qui en parlent en bien ou en mal. Je mélange tout ça d'une façon souvent très habile et j'espère un peu rythmer, bon, parfois rigolote, souvent horrible. Voilà, ça donne un petit zapping du travail, j'essaie d'en pondre à peu près un tous les 15 jours. Je propose aussi dans cette émission une interview de Karl Marx, en fait, puisqu'avec un copain, on a essayé en prenant des textes de Marx et d'écrivains marxistes, d'interviewer Karl Marx, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un copain qui prend l'accent allemand, qu'on imagine qui était celui de Karl Marx à Londres à la fin du 19e siècle, et puis on l'interview pour essayer pendant 10 minutes de taper vraiment dans la théorie de la lutte des classes, quoi, en fait, hein, et du matérialisme, de la dialectique, pour, disons, mettre en regard des éléments très concrets de ce que vivent les gens dans leurs conditions de travail aujourd'hui, des théories vraiment passionnantes qu'ont pu développer les marxistes dans leur bouquin, mais tout ça avec un rythme qui, j'espère, est un peu radiophonique, quoi. Voilà, donc tout ça, ça fait un mélange qui s'appelle « Voilà le travail », qui demande souvent pas mal de temps, quoi, et qu'on prend plaisir à faire, et puis qui nous casse les pieds aussi, puisque ça prend beaucoup de temps, quoi. Voilà, ouais.
Parlons vie de famille. Mais bien sûr. Celle-ci commence pour moi quand j'ai fermé mes livres et mes cahiers. On peut dire de moi, me semble-t-il, que je suis un père doux, tendre et indulgent. En fait, que je suis un papa poule.
En français, dans le texte.
Pour moi, les enfants doivent faire l'éducation de leurs parents. Comme le disait Goethe, ce sont les enfants et les oiseaux qu'il faut interroger sur le goût des cerises et des fraises.
Je parlais d'interviews par téléphone. Qui sont ces interviewés? Qui vous allez voir dans vos reportages?
Alors, dans les reportages, ce qu'on aime beaucoup faire, nous, c'est aller dans les manifestations, puisque dans les manifs, c'est souvent autour du travail, en fait, que les gens viennent faire des revendications, viennent contester, ou bien avoir des exigences, comme on a dit, par exemple, pour la manif du 11 octobre, là, c'est-à-dire hier. Aujourd'hui même, mardi, quoi, il y avait une manif. J'étais pas parce que mon syndicat m'a pas appelé à faire grève, d'ailleurs. Hein. Je suis un peu surpris, mais bon, c'est comme ça, je suis pas allé, je suis discipliné. Et donc des reportages de gens dans les manifs. Par exemple, le dernier reportage, c'était la manif des enseignants du 27 septembre. Il y avait les gens du privé et du public qui étaient là réunis. C'était un peu nouveau, j'avais jamais vu ça avant, quoi. Donc on essaye de provoquer un peu les gens. En fait, on fait souvent l'avocat du diable pour essayer d'obtenir des choses intéressantes. Par exemple, là, on était allé voir les mecs du public en disant... Ouais, outre ça normal qu'il y ait les mecs du privé qui sont là, c'est dégueulasse, non? Et puis après, on est allé voir les mecs du privé en disant « Ouais, les mecs du public trouvent que ce soit dégueulasse que vous soyez là, c'est pas normal. » Et bon, on prêche le faux pour voir le vrai, quoi. Là, en l'occurrence, c'était très intéressant, finalement, que même s'il y a des cathos d'un côté et puis des vrais fonctionnaires du public pour le bien commun de l'autre, qu'il y ait en fait une conjonction, quoi, une communauté d'intérêts autour de l'apprentissage des enfants, de ces conditions d'apprentissage qui sont dégradées, qui sont sabrées aujourd'hui sous l'ère Sarkozy, puis aussi avant par les socialistes. Hein. Pas rigoler non plus. Donc, en essayant dans les manifs comme ça de provoquer un peu, de faire un peu les malins, mais avec des idées derrière, quoi, on essaye d'obtenir en fait des réactions des gens. Des vrais gens qui sont là, quoi, qui ont souvent énormément de choses à dire, très précises. Contrairement à ce qu'on pense, moi, je peux témoigner qu'en fait, j'ai déjà interviewé des centaines de personnes qui sont inconnues, qui ne sont pas célèbres, qui ne sont pas populaires, hein, comme on dit aujourd'hui, et qui ont des choses passionnantes à dire, qui sont très renseignées, qui connaissent les textes, qui connaissent les lois, qui connaissent l'histoire, qui connaissent les enjeux, qui ont des idées précises et ouvertes sur la situation politique et sociale de ce pays. D'autres types de reportages qu'on aime bien faire, c'est aller dans les entreprises en lutte. On va voir des ouvriers qui nous expliquent pourquoi est-ce que le patron essaie de fermer leur boutique alors qu'elle fait des profits. Ça, c'est la réalité aujourd'hui là, dans la métropole lilloise et dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a partout, tout le temps, des boîtes qui ferment alors que le patron fait du bénéfice. C'est une réalité. Donc on va dire les temps sont durs, c'est la crise. Mais c'est la crise à bon dos. C'est un feuilleton, ça, la crise à bon dos dans cette région et dans ce pays, quoi. La réalité, c'est que, en fait, ils veulent des rentabilités à 17% maintenant de leur capital, les mecs. Tout ça sur le dos des seuls gens qui produisent véritablement les richesses, c'est les travailleurs, c'est les salariés, quoi. Et quand ils n'arrivent pas à dégager 17% de profit sur le dos de la bête, eh ben, ils ferment le bazar, quoi. Et puis, ils le dégagent en Europe de l'Est ou en Chine ou au Maghreb. Eh ben non, ça va pas. Donc il y a des types de 30, 40, 25, 50 piges qui sont sur le carreau, qui ont des familles à nourrir, qui ont des crédits sur le dos. Et ben il y a des gens qui les affament sans vergogne et sans pitié. Donc on va voir ça et on essaye de recueillir la parole des salariés en lutte. Et on essaye, tant que faire se peut, de recueillir aussi la parole des patrons et même de celle du MEDEF. Ça m'arrive régulièrement de téléphoner au MEDEF pour savoir s'ils veulent participer à l'émission et s'ils veulent dire quelque chose. Mais ils ont toujours un autre rendez-vous, hein, toujours. Pour ce qui est des entretiens téléphoniques, alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est les syndicalistes. C'est une émission sur le travail. Donc là-dedans, les gens qui s'y connaissent dans le travail et qui défendent le droit, hein, le droit et les conquêtes des salariés, c'est souvent, pas toujours, mais souvent, des gens qui sont dans des syndicats et qui ont un discours structuré, qui savent de quoi ils parlent, et qui ont souvent un discours bien plus mesuré d'ailleurs qu'on pourrait le penser. On entend souvent dans ce pays, sur TF1 par exemple, que la CGT fout la merde dans ce pays. C'est des conneries. La plupart des gens que je rencontre dans les manifestations ont un verbe bien plus haut que celui même de la CGT. Bien plus haut que celui même de Sud, qui passe pourtant pour un syndicat qui y va, quoi, hein. Non mais les gens, eux, ils sont souvent prêts à y aller au moment des manifs des retraites, par exemple l'année dernière, parce qu'on a suivi ça de très très près. Il fallait voir le nombre de gens dont on a recueilli les témoignages qui étaient prêts à faire des grèves reconductibles, la grève générale reconductible, qui étaient prêts à sacrifier un mois de salaire. Pas été suivis, alors peut-être ils étaient pas assez nombreux. Moi, je recueille des témoignages, c'est pas forcément représentatif, attention. Puis on aime bien aussi recueillir au téléphone des interviews de représentants d'associations de chômeurs, par exemple. Parce que je pense qu'il se passe un truc quand même dans ce pays, un problème terrible, c'est le chômage. Il n'y en a pas 12 000 des problèmes dans ce pays. Il y a le chômage qui lui-même crée d'autres problèmes. Le problème de banlieue n'existe pas. Le problème de sécurité, pour moi, il n'existe pas. Il y a un problème de répartition des richesses et le chômage a un rôle là-dedans. Son rôle, c'est de créer une pression à la baisse des salaires. Ça, c'est la fonction du chômage dans ce pays. C'est ce que j'avance, en tout cas. Et donc la voix des chômeurs est très importante, très intéressante. Et du coup, la voix des gens qui bossent à Pôle emploi est passionnante aussi. Voilà des salariés qui ont un rôle central dans l'organisation du travail de ce pays et qui peuvent témoigner de la réalité terrible que vivent une grande partie de la population. Enfin, je sais pas, il y a des millions, il y a quasiment 10 millions de gens dans notre pays, un mec sur 7, je crois, ou un enfant sur 7, qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qui a moins de 940 euros par mois. Pas normal, ça. Eh ben, à Pôle emploi, qui est censé s'occuper de ça, les mecs, ils bossent comme des chiens. Ils sont mal payés et ils sont mal formés. Ils doivent faire trop de boulot à la fois. Ils sont censés suivre 60 chômeurs dans la semaine, ou dans le mois, pardon, ce qu'ils sont incapables de faire. Donc là, c'est intéressant d'avoir des salariés de Pôle emploi au téléphone. Puis après, il y a des événements culturels. Il peut y avoir un metteur en scène qui monte un truc sur le travail ou sur l'industrie dunkerquoise ou sur la digue de Dunkerque. Enfin, enfin, on est une région riche historiquement et actuellement sur le plan de la question du travail. Il y a plein de gens interviewés tout le temps, quoi.
Donc j'imagine, ouais, jamais en panne d'inspiration chaque semaine pour trouver des sujets pour l'émission. Alors,
bah si, quand même. Si, comme, faut quand même être inspiré. Donc un média, bah, il se nourrit d'autres médias, quoi. Donc ça veut dire que moi, par exemple, je collabore toutes les semaines avec un journal qui existe dans le Nord et puis encore un peu dans le Pas-de-Calais, je crois, c'est le journal Liberté, qui est un journal hebdomadaire qui s'intéresse de très très près, et c'est le seul, on a la chance de l'avoir, qui s'intéresse de très près à la question des gens qui travaillent et des gens qui sont en lutte autour des conditions de travail, et puis des chômeurs aussi. Et donc, moi je lis Liberté, Hebdo, hein, dans le Nord, et Liberté 62, dans le Pas-de-Calais. J'ai collaboré d'ailleurs pour ces deux journaux personnellement, hein. J'ai un très grand respect pour l'intégrité de ces journalistes-là et la qualité de leur travail. Et donc, en lisant ce journal-là, moi ça me donne des idées, quoi. Et puis, évidemment, il y a Internet aussi, hein, mais c'est sûr que les journalistes qu'on est, même bénévoles, on doit trouver des sources d'inspiration permanentes. Et puis, mes sources d'inspiration, c'est aussi les autres radios du Nord-Pas-de-Calais, car j'aime beaucoup la radio associative, anciennement libre. Il y a dans notre radio des types comme Magie, là, qui est à côté de moi. Quand je l'écoute, ça me donne des idées. Il y a l'émission L'heure de le mettre, puis le mercredi à 18h30 sur cette antenne à Campus. Puis il y a d'autres émissions le samedi matin. Il y en a tout le temps, il y a des trucs bien, ça donne des idées qu'on n'a pas forcément. J'ai aussi d'autres lectures, quoi. Hein. Je lis L'Huma, je lis aussi Le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné, ça ne me sert pas à grand-chose, mais enfin, je le lis pour le plaisir. Et puis j'aime lire aussi La Voix du Nord. Bon, c'est un journal de droite qui a le solde des patrons et de Mullier, mais j'aime le lire quand même, ce journal, parce qu'ils ont des moyens pour envoyer leurs gars quand même... aller voir dans le bassin minier ce qui s'y passe, quand il y a une boîte à Tourcoing qui ferme alors qu'elle fonctionne bien, des trucs comme ça, quoi. Des fois, ils font quand même leur métier, ces gens-là, hein. Il y a beaucoup de journalistes de La Voix du Nord que je respecte, quoi. C'est la ligne éditoriale que j'aime pas. Donc, ça peut aussi m'inspirer, La Voix du Nord. Ouais. Donc, je m'inspire pas tout seul, hein. Ça, tout seul, je ferai rien du tout, quoi. Internet, ça suffit pas, quoi.
D'abord, leur rappeler l'évidence.
Vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
Ensuite, leur montrer que cela pourrait être pire.
Des chômeurs en puissance.
Puis, mettre en évidence les vertus du dialogue social.
Si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus.
Enfin, inviter au renouvellement de la collaboration sur la base du consensus obtenu. Et voilà le travail. Vendredi, 21h sur Radio Campus.
Tu disais tout à l'heure, tu es syndiqué. Est-ce que tu fais partie d'un parti politique? Est-ce que quand tu fais ton émission, tu laisses ces étiquettes, cette appartenance en partie de côté, ou est-ce que, bon, quand même, ça rentre en compte dans ton émission?
Ça rentre complètement en compte, je ne laisse ça absolument pas de côté. J'appartiens à un parti politique. Écoutez mon émission, vous comprendrez très rapidement lequel. J'appartiens à un syndicat, vous comprendrez vite lequel aussi. J'appartiens à un syndicat de gauche. J'appartiens quasiment au seul front qui est à gauche dans ce pays. Et un rare parti qui se trouve à gauche, c'est-à-dire pour moi la gauche, c'est la gauche du Parti Socialiste, que je considère comme un parti de droite, en réalité, et dont je souhaite la fin le plus vite possible pour le meilleur de mes concitoyens. Et c'est pour ça que je ne veux pas aller voter aux primaires, et je m'en fous complètement. Et je ne laisse pas ça de côté du tout, parce que même si au début je lisais Le Monde, hein, je lis encore Le Monde, je lis Les Échos, Le Figaro aussi, hein, attention, hein, je m'inspire aussi des ennemis, quoi, hein, de classe. Mais... même si au début de la radio, j'imaginais qu'on pouvait faire du journalisme objectif, je sais aujourd'hui que c'est une connerie. Il suffit de lire Le Monde pour voir que c'est un journal de droite. Il suffit de lire Le Figaro pour voir que c'est un journal d'extrême droite. Et je le lis. Les Échos, La Tribune, tout ça, c'est pareil, quoi. Et donc, Libération, pour moi, c'est kiff kiff bourricot. Le Nouvel Observateur, c'est ignoble. Ces trucs, pour moi, c'est des journaux horribles. C'est des journaux de la classe bourgeoise, de la classe dirigeante, qui représentent une fraction infime de la population, qui dessert la population, quoi. C'est des journaux antidémocrates, pour moi. Sous couvert de social, ce qui confine à la traîtrise, à la sociale traîtrise, hein, pour être précis. Donc, c'était quoi la question?
Sur les étiquettes politiques. Est-ce que donc toi, tu assumes tes étiquettes syndicales, partisanes,
oui,
politiques?
Oui, je les assume. Elles m'inspirent complètement. Les messages que m'envoie mon parti et mon syndicat et les réunions auxquelles je participe m'inspirent aussi complètement. Et je ne cherche pas du tout l'objectivité. Par contre, je n'affiche pas mes opinions directement à l'antenne. Elles se comprennent, elles sont implicites, mais elles ne sont pas explicites. Il faut lire Le Figaro, il faut le lire ce journal, pour voir à quel point ces journalistes sont des militants. Et de façon générale, les journalistes sont tous des militants. Robert Ménard, cet horrible personnage que je conchis, est un militant de droite, voire d'extrême droite, sous couvert d'objectivité, quoi. Son truc, la journaliste sans frontières ou je sais pas quoi, je m'en fiche, ça m'intéresse pas du tout, ce truc-là. C'est des militants qui appartiennent au camp d'en face. Et qui sont des gens qui luttent contre les gens qui m'intéressent moi, qui sont les vrais gens. Donc, on est tous des militants. Tous les journalistes sont militants. On a tous une optique, on a tous une idée en tête, qu'on le veuille ou non. Quand on fait nos montages en radio, c'est là où on est le plus militant. C'est même pas dans les petits commentaires qu'on fait entre deux interviews. C'est quand on cut un bout de ce que dit la femme qu'on interview, là. C'est à ce moment-là qu'on est des militants. C'est quand on choisit une chanson qu'on est des militants. C'est quand on choisit d'interviewer machin plutôt que bidule. C'est quand on choisit d'être plus agressif avec tel invité qu'avec tel autre qu'on est des militants. C'est ce que fait tout le monde à la radio, à la télé, dans les journaux. Je le fais aussi.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur.
Tu disais presque une dizaine d'heures de préparation chaque semaine pour une émission. Tu fais ça donc bénévolement. C'est un travail fou, quoi.
Oui.
Et pas fatigué, enfin au bout d'un moment, est-ce que c'est pas épuisant?
On n'est pas fatigué. Si, c'est même aliénant. Hein. La radio, pour moi, c'est une source de plaisir, de combat, mais c'est aussi quelque chose qui est aliénant parce qu'il faut pondre son bazar toutes les semaines. Quoi. Il faut, une émission de radio, c'est d'abord et avant tout occuper une heure sonore. Bon, évidemment, on a nos bandes de nuit, là, comme on les appelle dans la radio, qui passeraient derrière. Si je viens pas, il y a quelque chose qui va passer. Mais enfin, à partir du moment où je décide de faire une émission de radio, d'abord et avant tout, il faut que j'occupe de façon sonore une heure de temps. J'ai d'abord ça en tête. Il faut que je l'occupe bien, de façon rythmée, sans avoir une voix trop monocorde, comme nous le reproche parfois dans la radio associative, avec des choses qui soient variées, surprenantes, renouvelées. Qui soit en phase avec l'intérêt des gens, et tout ça, c'est une vraie discipline. Donc la radio, pour moi, c'est une source de plaisir, mais c'est aussi une source d'emmerdement, d'angoisse. À titre d'exemple, je prends une pause tous les étés, en fait. J'arrête là de faire la radio le juillet-août. J'adore ça. J'adore arrêter de faire la radio, au moins autant que je fais de la radio. Mais je peux vous dire qu'à la fin du mois d'août, je fais des rêves. Je fais des rêves de radio. C'est des rêves d'angoisse. Par exemple, au début, quand je faisais la radio, je rêvais que j'arrivais avec rien dans ma musette, que j'avais pas de disque, j'avais pas de MD, j'avais pas de cassette, j'avais rien, quoi. Et donc il fallait que je comble le blanc, quoi, combler le blanc, courir après la vie, quoi. Enfin, je veux dire, le blanc, c'est la mort un peu pour nous, c'est la mort de la radio, le silence. Et d'ailleurs, je fais même des rêves où j'étais irradié, où j'étais, tu vois, bouffé par la radioactivité, jusqu'à ce que je comprenne, sur un angle psychanalytique, finalement, que j'avais besoin d'être radioactif, c'est-à-dire actif sur le plan de la radio, quoi. Et donc, il faut se relancer, quoi. Il faut une énergie. Et puis, moi, j'ai un métier, par ailleurs. J'ai une famille. Il faut que j'élève mes gamins. Il faut que je lave mon linge. Et que je participe à ma vie de famille. que je prépare mon travail, que je corrige les cahiers de mes élèves. Bon, il y a des trucs à faire, que j'aille à mes réunions syndicales, que j'aille aussi manifester, que j'aille voir mes parents, ma belle famille. Enfin, le temps de radio, c'est du temps de vie en moins. Donc c'est les deux, quoi. C'est génial et c'est super chiant en même temps. Ouais.
Est-ce qu'à un moment, tu as pensé peut-être en faire ton métier, ou est-ce que c'était déjà venu cette idée à l'esprit ?
Mais oui, absolument. J'aurais bien voulu en faire mon métier. Et j'ai cherché à le faire. J'ai eu d'autres métiers avant de... Donc on a compris, je suis enseignant là. Mmh. J'ai cherché à le faire parce que je travaillais dans le milieu associatif. J'avais créé une action en fait associative où je bossais avec des habitants des quartiers populaires de la métropole lilloise. Et puis j'ai décidé d'arrêter ça parce que je voulais tenter de faire de la radio mon métier. Donc j'ai postulé à des trucs mais qui sont loin de mes idées militantes. J'avais même postulé à Radio Autoroute, là, 107.7, hein. C'est vrai. J'avais postulé même à BFM Télé. Tellement je m'étais dit, mais rien à foutre, même si c'est pas mes idées, j'aime la radio, moi. Donc je veux en faire, je veux passer mon temps à interviewer des gens, à faire du montage, même à faire de la technique, à faire de l'animation, n'importe quoi, mais j'aime la radio. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Je n'ai pas réussi, j'ai postulé à plusieurs bazars, et j'ai toujours été recalé, j'ai eu quelques entretiens, mais j'ai pas du tout réussi à bosser là-dedans. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être que la petite démo que j'avais faite, je reflétais trop mes idées politiques. Peut-être que mon profil de mec un peu bavard, un peu nerveux, correspond pas non plus à ce qu'on réclame maintenant en matière de radio, quoi. J'ai une voix aussi qui est plus très à la mode en matière de radio. Les voix qu'on aime bien à la radio aujourd'hui, c'est les voix à la Coé, les voix un peu comme ça. Ça marche bien, ça. Hein. Moi, j'ai plutôt un peu une voix à l'ancienne, je pense. Donc, il y a peut-être d'autres raisons qui m'échappent.
Il n'y a peut-être pas beaucoup de taf non plus, quoi.
Ah ouais, c'est, à mon avis, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai que t'as raison, le marché de l'emploi est quand même super serré. Puis il faut lire le bouquin Journaliste précaire pour savoir aussi qu'on parle de travail et de journalisme, mais le travail des journalistes, la plupart du temps, ben, c'est la pige, c'est dur, c'est mal payé, c'est sans pitié, quoi. Ouais. Mais j'étais même prêt à faire ça. J'ai même pas réussi à rentrer dans la servitude volontaire. Tu te rends compte ? C'est grave, non ?
Comment est-ce que vous avez réussi à inciter les pauvres à quitter les centres-villes pour aller vivre en banlieue ?
Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres.
J'ai remarqué que chez vous, les hommes politiques sont incapables de refuser une interview à une chaîne américaine. Alors j'ai créé Capital One, la fausse télé ultra-réactionnaire qui décortique la société française et les félicite pour ce qu'elle a de pire.
Nous n'avons pas de misère en France. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société.
La perle de la semaine m'a été offerte par votre éminent député et maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany.
Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe. Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin.
Patrick m'a expliqué la pauvreté en France.
Mais ce sont des gens relativement rares qui ont décidé une fois pour toutes qu'ils étaient en marge de la société, qu'ils voulaient pas travailler.
Les 10% de chômeurs, le million de RMistes et les 86 000 sans domicile fixe apprécieront.
Quand on fait une émission sur une radio associative, ce qui n'est pas évident, c'est le rapport aux auditeurs. Hein, parce que bon, voilà, c'est la radio, les gens n'appellent pas forcément au téléphone tout le temps, toutes les 5 minutes. On ne sait pas forcément qui nous écoute, combien de personnes nous écoutent. Comment tu vois ça, le rapport aux auditeurs de ton émission ?
Bah, c'est vrai que contrairement aux radios commerciales ou radios associatives, qui ont fait le choix finalement d'avoir des annonceurs, hein, parce qu'il faut le dire, ça, il y a les radios de catégorie A comme les nôtres peuvent avoir 20% de leur budget qui viennent de la pub qu'ils font à l'antenne. Le choix de Radio Campus, c'est de ne faire aucune publicité. Et ça fait partie des choses pour lesquelles je suis très heureux d'être ici et très fier. Mais comme on ne fait pas de pub, bah, du coup, on n'a pas besoin d'annonceurs. Parce que on n'a pas besoin de solliciter Médiamétrie qui file les chiffres aux autres radios, quoi. Pourquoi ? Parce que évidemment, ceux qui proposent de la pub aux radios, ils ont besoin de savoir si quel est le nombre des auditeurs, puis quelle est la nature de l'auditoire. Donc nous, on n'a pas ça, et c'est génial, parce que du coup, on produit des contenus qui sont complètement indépendants du nombre et de la qualité de nos auditeurs. Alors c'est génial, parce que ça nous offre une liberté immense. Et puis c'est pas terrible, dans le sens où du coup on connaît assez mal ses auditeurs. Et puis il faut bien dire ce qui est, je pense que dans l'ensemble on a quand même assez peu de retours dans la radio. Il arrive que tous les animateurs ici, là, qui sont là au bar de campus avec moi, ils ont de temps en temps des coups de fil, de temps en temps des emails, de temps en temps des courriers d'auditeurs, ou lors des événements organisés par campus ou auxquels Radio Campus participe, on peut rencontrer des auditeurs de campus. Enfin c'est pas énorme. Donc oui, peut-être que ça manque un peu, parce que du coup, on pourrait peut-être ajuster un peu nos contenus, non pas pour essayer d'avoir plus d'auditeurs, mais pour proposer une radio qui ait une qualité encore meilleure et qui réponde encore mieux aux attentes des auditeurs qu'on aime. Qu'on aime. Mais je pense que c'est une idée que j'ai, maintenant peut-être est-elle fausse, que les auditeurs de Radio Campus doivent ressembler à leurs animateurs. C'est ce que je crois et ce que j'espère. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Écoutez, nous avons une vraie vision de l'école, oui.
Cela n'est pas sans conséquence sur les conditions d'apprentissage.
Depuis plusieurs années, le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés est en constante augmentation. Dans le cadre de la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, le gouvernement ferme massivement des classes et supprime des postes sans aucune considération pédagogique.
Le sujet est moins les moyens que l'affectation de ces moyens et la capacité de les envoyer au bon endroit.
L'augmentation d'effectifs se fera au détriment du travail de tous. Les enfants en situation de handicap sont accueillis dans les classes ordinaires, sans formation supplémentaire ni spécifique des enseignants.
Cela n'est pas sans conséquence sur les conditions d'apprentissage.
Aujourd'hui, la troisième grande révolution, c'est celle de la personnalisation.
Maxime rencontre des difficultés d'apprentissage. Jusqu'ici, il pouvait bénéficier de l'aide de Madame Vimin, enseignante spécialisée du RASED, qui apportait un soutien spécifique. Aujourd'hui, de nombreux postes de RASED sont supprimés.
Cela n'est pas sans conséquence sur les conditions d'apprentissage.
Il faut une solution.
C'est d'autant plus grave qu'avec une classe surchargée, les élèves de M. Janin sont fragilisés et ceux qui perdent pied sont de plus en plus nombreux.
Il faut une solution pour chacun.
Quant à Thibault, c'est d'une orientation dans une structure spécialisée dont il aurait besoin. Mais faute de place, il devra poursuivre sa scolarité en échec scolaire dans la classe de M. Janin.
Cela n'est pas sans conséquence.
Il faut une solution pour chacun en sortant de l'école.
Sur les conditions d'apprentissage.
Il n'y a pas que des forces négatives dans notre pays. Il n'y a pas que des protestations. Il y a des gens qui se battent. Parce que eux, ils n'ont pas le temps de protester, ils ont tellement de travail.
Cela n'est pas sans conséquence sur les conditions d'apprentissage.
Donc là, on est en 2011, 30 ans après la libération de la FM. Est-ce que les radios associatives, selon toi, sont toujours nécessaires ? Bon, il y a plein d'autres médias qui se sont créés depuis, qui existent, Internet, etc. Est-ce que les radios associatives sont nécessaires encore aujourd'hui ?
Et oui. Je pense que tous les médias alternatifs qui ne sont pas des valets du capital sont nécessaires, et profondément nécessaires, indispensables. Parce que la démocratie sans information valable, quoi, c'est pas une démocratie. Et pourquoi est-ce qu'il faut des radios alors qu'avec Internet, on a maintenant en fait, l'avènement d'un média audiovisuel extrêmement puissant ? C'est parce qu'en fait, la radio, ça, c'est que du son. Et que, contrairement à ce qui est audiovisuel, le son, ça laisse quand même une grande place à l'imagination. En fait, on fait appel au sens, à l'ouïe, bien sûr, c'est impensif ce que je dis, alors qu'en fait, c'est quand même la vue, je pense, le sens le plus important pour l'être humain, le plus souvent sollicité, qui lui apporte le plus d'informations. Et du coup, ça laisse de l'espace, quoi. Quand on n'utilise que l'oreille, ça laisse de l'espace au cerveau. Ça lui laisse des possibilités, contrairement par exemple à la télévision, qui, suivant une émission caustique très célèbre, est l'ancêtre d'Internet. Et puis Internet est en train de devenir... C'est de la télé, quasiment de la télé, Internet. Donc, je trouve que la télé, en fait, il n'y a rien à faire dans la télé, quoi. Ça vous donne tout de suite, quoi. On s'affale, on se débranche le cerveau, et puis on reçoit les trucs, des quantités d'informations. C'est aussi une question de quantité d'informations, peut-être. Parce qu'avec l'image et le son mélangés, puis surtout l'image animée, on reçoit énormément, le cerveau reçoit, je pense, une quantité d'informations qu'il n'arrive pas vraiment à traiter. Et donc, qui le dépasse, quoi. Et on est submergé, non seulement par la quantité d'informations, rien qu'en regardant une seule émission, rien qu'en regardant un seul journal. Alors qu'avec la radio, on a, je crois, de l'espace dans le cerveau pour réfléchir et puis prendre du recul par rapport à ce qu'on perçoit. Un petit peu comme quand on lit. Là, c'est la vue, mais on peut prendre le temps de lire. Chacun son rythme, quoi. On lit lentement ou plus rapidement. On peut prendre son temps, puis relire la phrase. Je trouve qu'en écoutant, ça permet quand même d'avoir une quantité d'informations suffisamment réduite pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on entend et se dire, tiens, le mec qui est en train de parler, quand même, moi, je trouve qu'il dit pas mal de conneries. Bon, enfin, voyons un peu la suite. Et je crois que c'est nécessaire. Ça autorise quelque chose qui est absolument indispensable à la vie en communauté, qui est la critique. Ce que n'autorise pas vraiment la télévision ou bien Internet. Donc oui, c'est indispensable d'avoir des radios. Les radios en France, pas plus Campus qu'autre chose, ne sont libres dans le vieux sens du terme. Campus a plus de 40 ans maintenant. Elle a été une radio libre jusqu'en 82. Maintenant, c'est une radio associative qui a de la liberté d'expression. C'est nécessaire, ça a toute sa place. Et puis d'ailleurs, je constate que malgré l'avènement d'Internet, malgré l'omniprésence des écrans dans cette société, la radio a toujours une très grande place. Beaucoup de gens écoutent la radio. Beaucoup de gens apprécient la radio. La radio, ça permet aussi de regarder autre chose, de faire autre chose en même temps. Ça permet de conduire sa voiture, par exemple. Ça permet de se réveiller en douceur ou de s'endormir. Ça permet de... On peut s'occuper d'un enfant, on peut lever un enfant tout en écoutant de la radio. Bon, des fois, il faut être complètement attentif aussi, attention, faut pas déconner. Mais on peut faire autre chose en faisant de la radio. Pas mes émissions, Je tiens tout de suite à avertir les auditeurs que si j'en chope un seul à faire autre chose pendant qu'ils écoutent Voilà le Travail, le vendredi de 21h à 22h sur le 106,6 de Radio Campus, voilà.
Sébastien qui anime l'émission Voilà le Travail sur les ondes de Campus Lille sur le 106,6 sur la métropole lilloise et aux alentours. C'est diffusé le vendredi à 21h. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM. The buckshot, rockin' up with your little hoe, hurry up and suck my dick. I got you stuck off the realness. Inhale, my style is kinda fat, reminiscent of a whale. You know the deal. Work, rap, cat, I'm on a mission. Danger. When I plan on attack, I doubt that you're